encore ce soir, Seigneur, notre cœur a besoin de toi, a besoin de ta parole, a besoin de l'action de l'Esprit, sans laquelle, Seigneur, nous serions vides, nous serions inutiles, nous serions perdus. Alors merci, merci pour ta parole. Rends-nous malléables entre tes mains, rends-nous, Seigneur, sensibles à ta voix qui parle au cœur, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu n'as pas posé de limite d'âge pour pouvoir comprendre, saisir ton amour, Seigneur, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, Seigneur, ta parole, elle est là, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, pour que le cœur de celui qui la reçoit puisse être travaillé, transformé, oui, s'il le faut aussi, circoncis, comme ta parole le dit, pour que finalement, Seigneur, nous puissions être prêts, prêts à te recevoir, prêts à t'accueillir, prêts, Seigneur, à t'obéir, parce que c'est toi que nous voulons comme maître et Seigneur dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, Père. Amen. Amen. J'aimerais ce soir m'entretenir avec vous sur une pensée, mais on verra plusieurs textes qui nous amènent finalement à voir que c'est important, Dieu nous cherche. Amen. Dieu nous cherche et parfois on est étonné de la manière où Dieu a agi et intervenu dans notre vie à plusieurs moments, de différentes manières, pour chacun, je dirais encore d'une manière différente que l'autre, et même parfois dans une même famille, Dieu n'a pas parlé à tout le monde de la même manière au même moment, mais il y a eu des conversions qui se sont faites à quelques jours, à quelques semaines, parfois à quelques années de distance. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu nous cherche. Mais le Seigneur nous invite aussi à faire quelque chose, et on va le lire ensemble, on va méditer sur ça ce soir, sur un texte du livre des Lamentations, chapitre 3, verset 25. Lamentations, chapitre 3, verset 25, qui dit « L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. » On le relit ? L'Éternel est bon pour qui ? Pour qui espère en lui ? Et il continue, pour celui qui le cherche. Il est question pour nous d'espérance, mais aussi d'une démarche. Parce qu'on peut espérer sans bouger. Des fois, on est là, on est assis, on espère que quelqu'un nous propose un verre d'eau. Vous avez vu ça ? Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant ou peut-être prendre un café quelque part et vous espérez que le serveur vienne. Hein? Et vous attendez patiemment. Et vous attendez. Et vous attendez toujours. Et il y a un moment, vous dites, c'est bon. Je ne veux plus attendre. Je me lève et je vais chercher moi-même. Et je crois qu'il y a un moment, il faut comprendre que certes, Dieu nous cherche. Mais il y a un moment où Dieu attend aussi que nous, on soit dans cette démarche de le chercher. Mais il est question pour nous de comprendre aussi que Dieu est bon avec celui qui espère en lui. Alors, est-ce que vous espérez en l'Éternel ? Oui, qui espère en l'Éternel ? Levez la main. Oui ? Alors, vous avez bien compris que Dieu est bon. Vous avez cette certitude dans votre cœur. Parce que parfois, on peut espérer des choses qu'on ne verra jamais. Il y a un dicton en italien qui dit « Qui d'espérance vit, désespéré meurt. » Wow ! Mais ce n'est pas dans la foi, ça. Hein ? Vous savez, ceux qui attendent toujours quelque chose, et ils attendent. Mais la question, c'est pour nous d'espérer en quelqu'un qui, finalement, il est bon et sait qu'on attend à lui. Mais pour autant, il nous dit « Pour celui qui le cherche. » Dieu est bon, il me cherche, mais ça veut dire que moi aussi, j'ai un pas à faire vers Dieu. Alors, on va lire quelques textes de la parole de Dieu dans les évangiles. Par exemple, Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Une courte histoire de quelqu'un qui va chercher Jésus. Il dit « Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Et il ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Cette femme vient chercher Jésus. Elle vient devant Jésus, elle vient se prosterner. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors une question. Si elle n'avait pas été si persévérante, est-ce que sa fille aurait été guérie? Êtes-vous d'accord avec ça? Si elle n'avait pas persévéré, elle n'aurait pas eu de miracle. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est toujours persévérant pour aller jusqu'au bout? Parce que là, on lit une histoire, on se dit, oui, cette femme, elle a été persévérante quand même. Peut-être qu'elle aurait pu même se vexer par rapport aux propos de Jésus, qui Jésus lui dit quand même quelque chose qui peut être mal interprété. Mais cette femme, elle ne se démonte pas. Il dit, Seigneur, je suis venu jusque-là, je me suis jeté à tes pieds, ce n'est pas maintenant que je vais laisser tomber. Et Seigneur, même les miettes qui tombent de ta table, même une petite miette, Seigneur, pour moi, une grande bénédiction. Alors, vous savez, je l'ai déjà dit, nous, parfois, on dit, avec notre manière de faire, un petit miracle. Et moi, je crois que le Seigneur fait de grands miracles, fait des grands actes, et qu'il est question pour nous de prendre en considération l'amour que Dieu nous manifeste. Et finalement, il dira à cette femme, ô femme, ta foi est grande. Pourquoi Jésus lui dit, ta foi est grande? Parce que, ce que cette femme vient de dire, que même une miette, vous avez déjà mangé à un repas une miette? Alors je voudrais inviter notre sœur Hélène, la prochaine fois que tu invites à la maison Jean-Marie, tu lui mets une miette, pas plus. Et si tu le vois qu'il n'est pas content, tu dis c'est pas, c'est pour exercer ta foi. Hein? Parce qu'en effet, cette femme, elle est en train de dire, Seigneur, une miette. Une miette qui n'est pas grand-chose, une miette que si nous était présentée, on serait prêt à se dire c'est une insulte. D'accord, un régime, mais là c'est pas un régime. Une miette, qu'est-ce que tu veux faire avec une miette? Et cette femme est dit avec une seule miette, Seigneur, toi tu peux faire de grandes choses. Et Jésus lui dit, oh ta foi est grande. Alors je voudrais nous encourager ce soir. Parce que je crois que le Seigneur, ce n'est pas les miettes qu'il veut nous donner, mais il nous invite à table. Il dit que ta foi va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et il dit la parole de Dieu, à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors, espérer et venir à lui, car il donne du secours. Cette femme, elle a espéré dans le Seigneur, elle n'a pas lâché tant qu'elle n'a pas reçu ce que le Seigneur pouvait lui donner. Et on pourrait dire, est-ce que le Seigneur voulait lui donner? Oui. Et moi, je voudrais te dire ce soir encore, le Seigneur veut. Mais il veut voir aussi jusqu'au toi où tu es prêt, où tu es prête à aller. Deuxième exemple, Marc chapitre 1, versets 40 et 42. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'attire votre attention sur le fait qu'un lépreux vint à lui. Encore une fois, il y a un acte de foi, il y a une action personnelle qui fait que cet homme vient et se jette à genoux. La première, elle se prosterne devant le Seigneur. Le deuxième, il vient se jeter à genoux. Il y a vraiment cette attitude de cœur, cette humilité de venir devant celui qui a tout pouvoir, toute autorité, de dire, Seigneur, moi, je suis plus bas que terre, mais toi, si tu veux, tu peux me guérir, Seigneur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, dit la parole, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre, le quitta et il fut purifié. Espérez et venir à Jésus, car il guérit. Encore ce soir. Amen. Espérer et mettre sa confiance dans le Seigneur parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Encore un autre exemple, Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Et il est question de venir à Jésus parce qu'il est aussi celui qui pardonne. Espérer et venir à Jésus. Il dit le texte, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint, encore une fois, quelqu'un qui fait cet acte, on vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait de lui-même présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Moi, je ne sais pas si on se rend compte, les paroles de Jésus et ces hommes qui réfléchissaient, c'est comme si maintenant le Seigneur sait ce que vous pensez, et il le sait. Et par la parole ou par le message, d'une manière, le Seigneur révèle ce que vous êtes en train de penser. Alors dis-toi, on est mis à découvert. Mes pensées, elles sont mises devant tout le monde finalement. Et Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce qui vous fait réfléchir de cette manière? Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Quelle est votre réponse? Qu'est-ce qui est plus facile? Quand on se trouve face à quelqu'un qui a une maladie qui dure depuis longtemps, on pourrait dire que c'est plus facile de dire « va, tes péchés sont pardonnés ». Là, il ne doit pas y avoir de miracle en tous les cas. S'il y a quelque chose, ça se passe à l'intérieur. Finalement, on n'est pas remis en question. Non? Et peut-être que ces hommes, ils se sont dit « ben, finalement, Jésus... Il choisit le chemin de la facilité. C'est facile de dire à quelqu'un, va, tes péchés te sont pardonnés. En plus, c'est même pas les hommes qui pardonnent, c'est Dieu qui pardonne. Il n'a rien fait, Jésus. Et Jésus lui dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. En effet, Jésus est en train de prouver à ceux qui étaient présents à ce temps-là, mais aussi à nous qui sommes présents ce soir, qu'il a le pouvoir de pardonner. Certes, il a le pouvoir de guérir, parce qu'il dit à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes, en glorifiant Dieu, en disant, « Nous avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Mais Jésus est en train, finalement, il les ramène dans leur retranchement. Ils sont dit certainement, bah oui, c'est plus facile de dire à quelqu'un, va, tes péchés se t'en pardonnent. Mais Jésus est en train de lui dire, tu vois, tu vas comprendre que je peux le faire. Et moi, je voudrais encore ce soir nous encourager, dire, si on va à Jésus, Jésus peut le faire. Si on s'approche de Jésus, Jésus peut le faire. Le Seigneur peut nous pardonner, le Seigneur peut nous relever, le Seigneur peut encore nous guérir. Amen. La deuxième question qui se pose dans ce que nous avons lu tout à l'heure, puisque l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour celui qui le cherche, il est question pour nous de le chercher aussi avec une certaine attitude, parce que la repentance est une condition essentielle. Si je vais au Seigneur tout simplement en pensant que je mérite, ben je n'obtiens rien du tout. D'ailleurs, dans la parole, il nous dit qu'il y a eu des villes où Jésus n'a fait aucun miracle. Parce que les gens ne croyez pas. Finalement, l'incrédulité peut être nourrie par notre manque de conscience du fait que nous sommes des pécheurs. On n'aime pas dire ça. Je me suis rendu compte qu'on n'aime pas trop parler de nos échecs. Vous aimez parler de vos échecs? Quelqu'un vient vous voir, est-ce que vous parlez de vos échecs ou vous parlez de vos réussites? Peut-être vous ne parlez pas du tout. Vous dites comme ça, je me mouille pas trop, je dis pas trop. Mais finalement, dans la parole de Dieu, il est question pour nous de venir au Seigneur et de lui dire, Seigneur, mais voilà, dans ma vie, j'ai des échecs. Parce que en fin de compte, que celui qui n'a pas d'échec dans sa vie lève la main. On a tous connu des échecs. On a tous commis des erreurs. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs ? Parce que si je prends l'erreur en disant « ben, finalement, je ne suis pas pire que les autres, hein ? Ah ben, tu vois, Seigneur, tous des pécheurs, donc tout va bien. » Ça veut dire qu'on entretient un type de fonctionnement où finalement on n'est plus sensible au fait qu'on s'est trompé. Par contre, la parole de Dieu, il nous dit que le Seigneur est venu pour nous chercher, oui certes, mais aussi pour nous sauver. Luc chapitre 9, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc chapitre 9, verset 56. Le Fils de l'homme est venu. Nous, nous sommes appelés à venir au Seigneur, mais Jésus lui aussi fait un pas vers nous. Quel bonheur de savoir qu'on n'a pas tout le chemin à faire. Parfois, quand on se dit, tiens, il y a tant et tant de routes à faire, et de voir que le Seigneur, lui, il vient vers nous, il pourrait rester à sa place. D'ailleurs, si vous avez vu dans certains moments, quand on présente un roi, ce n'est pas le roi qui va vers ses sujets, c'est les sujets qui vont vers le roi. Le roi, il attend. Il est assis sur son trône et il attend. Hein ? Tout va bien. Mais là, la parole de Dieu nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc chapitre 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Waouh! Le Seigneur, il nous cherche, mais pour nous amener sur un terrain différent que celui que nous, on aurait pensé. Et je dirais quelque part que la parole de Dieu nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour être pécheur. Hein. Vous êtes devenu pécheur à quel âge ? Dites-moi. Hein ? Déjà à la naissance. Waouh ! Mais ça confirme ce qu'il dit Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors quand il dit les hommes, il dit aussi les femmes. Il n'y a pas... Hein ? Parce que des fois j'ai entendu certaines choses, dire oui c'est les hommes. Les femmes, on n'est pas dans ce cas-là. Hein ? Alors, je crois que dans cet état de cœur, malheureusement, l'humanité tout entière. Et il n'y a pas d'âge pour recevoir le salut. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la conversion, le désir de changer de vie n'a pas d'âge. Il m'est arrivé de voir des enfants, je me rappelle d'un culte, une réunion d'évangélisation, j'étais tout au début de ma formation pastorale et j'étais invité dans une église et j'avais passé un week-end compliqué. Déjà sur la route, c'était compliqué. Pour y aller, c'était ultra compliqué. J'ai eu tant de problèmes sur la route. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Que des soucis, que des problèmes. Je suis arrivé sur place et les problèmes ont continué. Je ne vais pas dans les détails, c'est ni le lieu ni le moment. Et après, je sentais une forme d'opposition et je comprenais pas. Je me disais, Seigneur, mais je suis dans ton église, je prêche l'évangile. Et je sens qu'il y a comme un fardeau, quelque chose qui bloque. Alors certes, les frères et sœurs qui m'ont reçu, ils étaient pleins d'amour. Rien à dire sur tout ça, mais je sentais qu'il y avait comme une chape. Et l'après-midi, c'était réunion d'évangélisation. Je dois être sincère. Vu le week-end que j'avais eu, je m'étais dit, ah, qu'est-ce que ça serait super s'il me dit que cet après-midi, on s'arrête. J'attendais juste de pouvoir repartir à la maison. J'étais fatigué, j'avais été vraiment pressé comme un citron. Et là, cette évangélisation, ben je prêche l'évangile et je ferme les yeux. Et avant la réunion, je dis, Seigneur, tu sais que moi, je suis vidé complètement, mais il n'y a que toi qui peux faire quelque chose là. J'ai dit, moi, je serais presque de l'avis de rentrer à la maison. Certainement, le frère, il va prêcher mieux que moi. Seigneur, j'ai l'impression tout le week-end d'avoir rien vu, de rien qui s'aboutit, Seigneur. Mais il y a un souci, je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Et là, je finis de prêcher, je ferme les yeux et je fais un appel. Et j'ai eu une vingtaine d'enfants qui sont venus devant accepter le Seigneur. Et là, le Seigneur, il m'a mis une claque. Et en voyant ces enfants venir devant en pleurant pour donner leur cœur à Jésus, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que finalement, j'étais en train de placer mes limites sur toi, alors que toi, tu n'en as pas de limites. Et quelque part, nous, parfois, on a besoin aussi d'accepter, de nous dire, Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas bien fait. Seigneur, merci parce que finalement, il n'y a pas d'âge pour être pécheur, mais il n'y a pas d'âge pour être sauvé. Alors, quel qu'il soit votre âge ce soir, vous avez le droit d'être sauvé. Alors, je ne vais pas faire un concours pour savoir qui est la personne la plus âgée, ni celle qui est la plus jeune. La plus jeune, je la vois. Mais ce que ça veut dire, c'est que quel qu'il soit notre âge, Jésus nous cherche. Et quel qu'il soit notre âge, nous pouvons aller à Jésus. Alors je voudrais juste vous rappeler, c'est que Dieu vous attend. Jean chapitre 12, verset 32, il dira, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui accepte finalement d'aller à la croix et de donner sa vie. C'est Jésus qui est en train de dire, lorsque je serai placé là sur le bois de la croix, cloué à la croix, non pas pour mes fautes, non pas pour mes erreurs, non pas pour mes péchés, non pas pour mes maladies, mais pour les vôtres, à partir de là, j'attirerai tous les hommes à moi. Et la volonté de Dieu, c'est finalement de dire, je suis là, je vous attends. Le Seigneur t'attend. La deuxième chose, c'est que le Seigneur nous appelle. Ésaïe 55, verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est où le Seigneur? Ici où? Il est où, Jean-Marie? Amen. Il est dans notre cœur si on l'a invité. Si on ne l'a pas invité, le Seigneur il ne s'immisce pas dans notre cœur. Mais quand il nous dit qu'il est prêt, ça veut dire qu'il est à la portée de tout le monde. Il est là où peut-être on ne l'attendait pas. Il est là où finalement, nous on se disait, je ne sais pas ce que je vais entendre, mais d'un coup, pas seulement j'entends que Dieu me cherche, mais en plus que Dieu m'attend. Et que finalement, le Seigneur, il est prêt à se laisser trouver. Parfois, les personnes me disent, vous savez, c'est difficile de trouver Jésus. Alors, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un homme qui frappera à la porte du bureau de l'église et il me dira, bonjour monsieur, j'ai vu que vous faites des entretiens, vous êtes pasteur, je me cherche. Il dit, ça fait 3 ans que j'ai tout quitté, je suis en voyage, je me cherche. Et je dis, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous vous êtes trouvé, vous êtes là. Je dis, et si vous êtes arrivé là, c'est parce que Dieu vous cherche. Et j'ai pu discuter longuement avec lui. Finalement, je crois cette recherche aussi du sens de dire, mais pourquoi, finalement, pourquoi je suis là? Ça vous est arrivé de vous poser cette question? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a donné la vie? Quel est le sens de ma vie ici-bas? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? Quel est le but de ma vie? Mais tu sais, tant que tu te poses la question à toi-même, tu n'auras pas la réponse, parce que la question, ce n'est pas à toi-même que tu dois la poser. C'est au Seigneur. Et si tu poses la question au Seigneur, ben le Seigneur te montrera pourquoi. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Comment il va l'accomplir? Mais les questions, finalement, pour nous, de répondre à cet appel de Dieu, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Et dernière chose, vous connaissez ce texte de Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce qui vous fatigue? Ah, la liste, elle pourrait être longue. Parfois, on pourrait se tourner à droite ou à gauche et dire « C'est lui, c'est elle. Hein? Qu'est-ce qui vous fatigue ?» Les circonstances, les problèmes, oui, le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fatigue? Et quand est-ce que vous allez décider de changer les choses? Parce qu'il peut y avoir des choses qui nous fatiguent, vous savez, on peut les dire tous les jours, et pour autant rien résoudre. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui, dès qu'il y a un problème, la première chose qu'il fait, il y a un problème, il va faire un état des lieux. C'est sa première réaction. Et une fois qu'il a fait l'état des lieux, ben, ça ne va pas bouger. Et nous, parfois, on est fort à faire l'état des lieux. Ce soir, si je vous dis qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureux, ben, vous allez faire un état des lieux. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ok, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour changer les choses? Alors, si tu t'arrêtes à un état des lieux dans ta vie, si tu fais un état des lieux en disant, Seigneur, je sais que je suis pécheur, pécheresse, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais te dire, demain, tu peux recommencer à faire le même état des lieux. Et vous avez des personnes qui vous disent, ça fait tellement d'années que je voudrais changer, mais je n'arrive pas à changer. Et parce que tu t'es arrêté à l'état des lieux, non? Mais pour ceux qui travaillent, quand vous prenez un chantier, une maison, certes, il faut faire un état des lieux. Mais après, si vous voulez que la maison, elle change, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, on se retrousse les manches et on se met au travail. Eh bien, parfois, on aimerait que quelqu'un vienne faire le travail pour nous. Hein? Sauf que le Seigneur nous dit, non, c'est pas moi qui va arracher la tapisserie dans ta vie. Tu vas le faire parce qu'en dessous de la tapisserie, finalement, tu as caché tellement de choses que tu as besoin d'arrêter de les cacher, mais que tu as besoin de les sortir, de les déclarer, de dire, Seigneur, voilà, il y a un problème dans ma vie. On a habité une maison à Besançon. Quand on a acheté cette maison, tout semblait nickel. Jusqu'au jour où on a enlevé la tapisserie. Il y a une pièce, on avait tous les problèmes possibles imaginables de ce monde dans cette maison. On peignait le toit, le plafond, on avait la peinture qui tombait en petits morceaux. On a enlevé le papier, on s'est aperçu que derrière, ce n'était pas du placo, c'était... Et des fois, le cœur et la vie qui est la nôtre est un peu comme ça, comme une maison déglinguée. Mais on a mis des couches, on a mis des peintures, on a mis une belle tapisserie, et on n'y voit que du bleu. On sait quelle est la couleur qu'elle aime notre sœur. Mais le Seigneur, vous savez, il est capable de gratter en dessous la peinture. Et non pas parce qu'il aime mettre en évidence nos problèmes, mais parce qu'il veut les régler. Et ce soir, si tu veux changer l'état des lieux dans ton cœur, dans ta vie, mais c'est temps pour toi de dire, Seigneur, je ne veux plus cacher par une peinture, par une tapisserie ou quoi que ce soit. Seigneur, je ne veux plus cacher la misère qui est au fond de mon cœur. Je veux venir la déposer à tes pieds pour que toi, tu m'en libères. Seigneur, pour que toi, tu changes les choses. Alors, vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et deuxième chose, chargé. Quand on parle de charge, on pense toujours à quelque chose qu'on ramène sur le dos. Mais moi, je vois dans le fait de charger quelque chose qui est à l'intérieur, quelque chose qui pèse, quelque chose qui finalement, il y a quelques années en arrière, il y a un pasteur qui était parti et devait faire un long voyage. Et il avait une hernie. Il avait une hernie et pendant la route, il a fait un grand malaise. Et ils l'ont ramené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont enlevé une hernie qui faisait plusieurs kilos. Et on l'a revu quelques semaines plus tard. Et le frère, avec beaucoup d'humour, il disait, vous savez, j'ai fait le régime. Hein, et là, c'est, je ne sais pas la marque qui citait de régime, mais il dit, j'ai perdu des kilos. Mais il a fallu opérer à l'intérieur. Et son épouse nous disait, on ne voyait pas de l'extérieur. Mais il y avait une masse qui faisait plusieurs kilos, qui était cachée à l'intérieur. Et tant que le malaise ne s'est pas produit, ben jamais on aurait pu imaginer que ce frère se promenait avec quelque chose d'aussi compliqué. Parfois, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des choses compliquées. Et qu'on a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, viens passer un scanner de mon cœur. Seigneur, il y a un poids au fond de mon cœur, il y a quelque chose que j'ai besoin finalement d'abandonner. Il y a quelque chose que j'ai besoin de laisser. Je me rappelle d'une femme qui était venue une fois à une réunion, et pendant le temps de la réunion, le Seigneur me montre quelque chose la concernant, et cette femme, en effet, elle s'était sentie rejetée par sa mère, à tel point qu'elle en voulait à sa mère, et la haine, elle avait habité son cœur pendant toute sa vie. Elle était déjà grande. Elle avait elle-même des enfants, mais sa relation avec ses enfants aussi, elle n'était pas simple, elle n'était pas libre, parce qu'il y avait un fardeau au fond de son cœur. Et ce jour-là, le Seigneur a permis de mettre en évidence où était le problème. Et ce jour-là, cette femme, elle dit au Seigneur, « Seigneur, viens me libérer de ce sentiment terrible et horrible. Seigneur, viens me délivrer de ça, c'est un poids. Tu dis, Seigneur, ceux qui sont chargés, elle est là, ma charge. » Elle l'a déposé au Seigneur. Et le Seigneur a changé son cœur, a changé sa vie, et même sa relation avec les enfants a changé. Moi, je crois qu'il y a des fois des choses, vous savez, qu'on cache à tout le monde. Mais le Seigneur voudrait te dire ce soir, arrête de cacher, viens. Cette femme vint à Jésus. Cet homme vint à Jésus. Et toi, que vas-tu faire ce soir? Je voudrais vous inviter à fermer les yeux, tout simplement. Et si quelqu'un voudrait ce soir aller à Jésus et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, tout simplement, je voudrais vous inviter à faire cet acte de foi dans votre cœur et dire, Seigneur, je viens à toi. Si vous voulez répéter avec moi cette prière toute simple, dire, Seigneur, je viens à toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Tout seul, j'y arrive pas. Seigneur, c'est trop lourd. C'est difficile. J'ai besoin de retrouver la paix. J'ai besoin de retrouver, Seigneur, ce que je n'ai peut-être jamais vraiment connu. Seigneur, viens me libérer de tout ce qui me fatigue, Seigneur. Ce qui finalement, il m'enlève toute force, toute capacité d'avancer dans la vie. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes manquements, Seigneur. Je veux arrêter de me justifier. Je veux juste, Seigneur, venir à tes pieds et reconnaître mes fautes. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et Seigneur, tu es riche en bonté. Tu fais preuve de miséricorde encore ce soir pour tous ceux et celles qui se confient en toi. Seigneur, que ta main soit sur ceux et celles qui encore ce soir te disent au fond de leur cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout simplement. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ta main soit celle qui vient guérir maintenant les cœurs. Tu connais, Seigneur, les souffrances qui peuvent être au plus profond de chacun. Et nous voulons te demander, Seigneur, encore ce soir, que tu fasses cette œuvre en profondeur et que tu puisses, Seigneur, transformer la vie de chaque personne qui se confie en toi. Seigneur, merci. Merci d'avoir pour nous à la croix, Seigneur, accompli le plus grand, le plus merveilleux des miracles, le salut. Seigneur, merci parce que à la croix, tu as accepté pour nous de prendre notre condamnation, de prendre, Seigneur, l'acte qui était rédigé concernant toutes nos fautes et, Seigneur, de le clouer à la croix pour que finalement nous soyons pardonnés, graciés. Et c'est par ta grâce encore ce soir que nous nous approchons de Dieu en disant notre Dieu, notre Père, nous nous confions à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia.